VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mardi 11 avril 2017 en direct de Washington. Idrissa Seydoulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, un semblant de vie a repris en fin de journée hier dans les quartiers populaires de Matongé et de Yolo à Kinshasa, ville fantôme lundi.
Au Niger, fermeture jusqu'à nouvel ordre du campus universitaire de Niamey après une violente manifestation des étudiants.
Sommet de l'UMOA à Abidjan, le président en exercice Alassane Ouattara se veut rassurant quant aux Français.
La Corée du Nord s'est dit aujourd'hui prête pour la guerre en réaction à l'envoi d'un groupe aéronaval américain vers la péninsule coréenne.
Le secrétaire d'État américain en Italie a une réunion du G7 avant de se rendre en Russie pour des entretiens sur le soutien de Moscou à la Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
En RDC, la population de Kinshasa est restée massivement chez elle lundi. Elle craignait des violences pendant une manifestation interdite contre le président Joseph Kabila, à laquelle l'opposition congolaise avait appelé sans conviction et qui n'a pas eu lieu. Alors que les forces de l'ordre étaient toujours nettement visibles, un semblant de vie a repris en fin de journée lundi dans les gargotes dansantes des quartiers de Matongé et de Yolo, symbole de l'ambiance festive de Kinlabel.
L'UDPS, parti des Ken Tshisekedi décédé en février, avait appelé la population à manifester lundi dans tout le Congo contre M. Kabila au pouvoir depuis 2001. Mais la marche annoncée à Kinshasa n'a pas eu lieu faute de manifestants et d'organisation. Félix Tshisekedi, fils de l'opposant historique qui briguait ouvertement le poste de Premier ministre, a accusé dimanche le président Kabila, dont le mandat a expiré le 20 décembre 2016, d'être le principal obstacle au processus démocratique. M. Kabila avait vendredi nommé Bruno Tshibala, un dissident de l'UDPS, à la tête du gouvernement. M. Tshisekedi avait quitté le Congo par avion dimanche après-midi, avant que la police n'annonce l'interdiction de tout rassemblement politique dans l'ensemble du pays lundi.
Dans le sud-est du Niger, au moins 57 combattants de Boko Haram ont été tués dimanche soir au cours de violents combats avec l'armée près de Guesqueru. L'armée a saisi d'importantes quantités d'armes et de munitions et 3 véhicules des assaillants. Idriss Fall a fait le point avec Moussa Aksar, directeur de l'événement à Niamey.
Selon nos informations, il s'agit d'une attaque perpétrée par les éléments de la secte Boko Haram à ce village de Guesqueru. Dans la nuit du 9 aux environs de 21h, ces éléments étaient venus à bord de plusieurs pick-up pour attaquer une position de l'armée nigérienne qui était sur le qui-vive et qui a réussi à infliger de lourdes pertes à ces assaillants-là. On parle d'un nombre de 57 éléments de la secte tués lors de ces affrontements-là. Le 5 avril et le 8 avril dernier, des éléments de la secte Boko Haram qui ont réussi à faire une diversion avant cette attaque de Guesqueru, mais qui ont été aussi démasqués et neutralisés dans le village de Bodrum, dans la région de Menesoro. Le 5, c'est un élément qui a été dénoncé par la population et puis cueilli par les éléments de RDS. Et le 8, ils ont réussi à faire une incursion pour faire diversion dans cette zone-là avant de lancer l'attaque sur Guesqueru, qui était leur objectif principal.
Moussa Aksar, directeur de l'événement à Niamey.
Toujours au Niger, le campus universitaire de Niamey, le plus important du pays, est fermé jusqu'à nouvel ordre après une violente manifestation des étudiants qui réclament de meilleures conditions de vie et d'études, a annoncé un communiqué officiel. Le communiqué signé par le ministre Mohamed Ben Omar juge les événements graves et inacceptables.
Le franc CFA, monnaie commune aux 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, se porte bien. C'est ce qu'a assuré hier à Abidjan le président ivoirien Alassane Ouattara. Le point avec Jean-Roger Bion.
Monsieur Ouattara a donné ses assurances à la fin d'une session extraordinaire de l'UMOA dont il est le président en exercice. Il a dénoncé ce qu'il a appelé toutes les informations fallacieuses qui circulent sur la solidité et la pérennité de notre monnaie. Cette réunion s'est déroulée en présence de ses homologues du Burkina Faso, du Bénin, du Sénégal, du Mali, du Togo, du Niger et de la Guinée-Bissau. Le CFA est lié à l'euro par un système de parité fixe. Pour la garantie, les États africains doivent déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Ce lien fort avec l'euro est considéré par beaucoup comme un gage de stabilité, mais certains économistes, responsables africains et militants accusent le CFA de freiner le développement de l'Afrique et dénoncent une perte de souveraineté. Paris s'est dit ouvert à la mi-mars à toutes les propositions que les 15 pays de la zone franc pourraient formuler lors de leur prochaine réunion sur le sujet, le 14 avril à Abidjan.
En Ouganda, une universitaire et militante des droits de l'homme a été inculpée hier par un tribunal de Kampala pour harcèlement et outrage envers le président Yoweri Museveni. Le point avec Solange Niamulisa.
Stella Nyanzi, 42 ans, est connue pour ses commentaires crus postés sur les réseaux sociaux contre la ministre de l'Éducation, épouse du président Museveni. Elle a multiplié ses attaques lorsque le gouvernement a renoncé à fournir gratuitement des serviettes hygiéniques aux filles scolarisées, malgré une promesse de campagne. L'universitaire n'a pas été inculpé pour ses attaques contre Janet Museveni, mais pour ses commentaires sur le président comparé à une paire de fesses. Une remarque jugée obscène et indécente par le tribunal. Arrêtée vendredi soir, la cour a ordonné son maintien en détention. Son avocat a promis de batailler ferme pour défendre les droits de sa cliente et va demander sa remise en liberté provisoire. Gertrude Witware, une journaliste qui a osé lui apporter soutien, a été passée à tabac samedi à Kampala. Human Rights Watch condamne cette arrestation qualifiée d'atteinte à la liberté d'expression.
En Égypte, les forces de l'ordre ont tué lundi 7 personnes soupçonnées de faire partie du groupe État islamique lors d'un échange de tirs, alors que ces derniers étaient en réunion pour préparer un attentat contre des chrétiens, a annoncé le ministère de l'Intérieur. La fusillade qui s'est produite à Assyut, dans le sud de l'Égypte, survient au lendemain de la décision du gouvernement égyptien d'instaurer l'état d'urgence pour une période de 3 mois après les 2 attentats perpétrés dimanche par les djihadistes contre 2 églises coptes à Alexandrie et Tanta qui ont fait 40 de sa mort. Les 7 djihadistes ont été tués après avoir tiré sur les forces de l'ordre qui s'approchaient. Assyut compte une minorité chrétienne importante. Les Coptes, dont la présence en Égypte remonte à l'époque romaine, se disent victimes de persécutions religieuses et accusent l'État de ne pas suffisamment assurer leur sécurité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Nord a promis aujourd'hui de répondre à ce qu'elle a appelé l'envoi insensé d'un groupe aéronaval américain vers la péninsule coréenne. Elle a averti qu'elle était prête pour la guerre, alors que la tension monte encore d'un cran dans la région. Le président Donald Trump a récemment demandé à ses conseillers de lui préparer toute la gamme des options possibles pour faire pression sur le régime de Pyongyang et l'obliger à interrompre son programme d'armement nucléaire.
La Maison-Blanche a dit clairement hier qu'elle ne voyait aucun moyen pour le président syrien Bachar al-Assad de rester au pouvoir pour le long terme. Selon le porte-parole présidentiel Sean Spicer, la principale priorité des États-Unis, c'est la défaite du groupe État islamique pour ensuite créer un environnement pour un changement de leadership. Le président Trump a ordonné la semaine dernière une attaque au missile Tomahawk contre une base aérienne utilisée par le régime Assad, selon les officiels américains, pour lancer une attaque chimique qui a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés en Syrie. Pour M. Spicer, cette frappe américaine pourrait ne pas être la dernière, mais il a souligné que les États-Unis n'entendent pas être le gendarme du monde.
Pour sa part, le secrétaire d'État Rex Tillerson a promis hier un nouvel engagement des États-Unis pour que tous ceux qui attaquent leurs citoyens innocents rendent des comptes partout dans le monde. Il l'a dit hier en Italie lors d'une cérémonie du souvenir en compagnie de ses homologues du G7 dans un village où plus de 500 civils ont été assassinés par des soldats nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. M. Tillerson, qui cherche l'appui du G7, doit se rendre cette semaine à Moscou pour des entretiens avec son homologue russe Sergueï Lavrov sur le soutien continu de la Russie au régime Assad.
Il existe une opportunité de convaincre Moscou de mettre fin à son soutien au régime du président syrien, ont estimé lundi dans un entretien téléphonique la première ministre britannique Theresa May et le président Donald Trump. La première ministre et le président ont convenu qu'il existait désormais une fenêtre d'opportunité pour persuader la Russie que son alliance avec Assad n'est plus dans son intérêt stratégique, a déclaré une porte-parole de Madame May. La Grande-Bretagne a fait savoir qu'elle avait pleinement soutenu les frappes américaines de jeudi dernier.
Le juge Neil Gorsuch a prêté serment hier à la Maison-Blanche, sa dernière étape avant de siéger à la Cour suprême des États-Unis, qu'il va faire basculer du côté conservateur chez Ruben Dorsey.
Nous sommes réunis ici pour un moment historique, a lancé le président Donald Trump en rendant hommage à l'intégrité incontestable du magistrat, ses propres termes. Neil Gorsuch a prêté serment, la main gauche posée sur une Bible tenue par son épouse. Il a promis d'être un serviteur fidèle de la Constitution et des lois américaines et s'est engagé à servir l'idéal de justice avec impartialité et les mêmes égards pour les riches et les pauvres. Deux heures auparavant, il avait prêté un premier serment à la Cour suprême. Le juge Gorsuch, 49 ans, est le plus jeune magistrat nommé à l'instance suprême en un quart de siècle. Il devient le 9e juge nommé à vie qui va faire basculer l'institution sous l'aile des conservateurs. Il pourra siéger dès la semaine prochaine.
Une fusillade a coûté hier la vie à une enseignante et à deux élèves dans une école primaire de San Bernardino, la ville californienne où un attentat d'inspiration islamiste avait fait 14 morts et 21 blessés en 2015. Selon la police, l'assaillant s'est tué dans ce qu'elle a qualifié de meurtre-suicide. Elle essaie de déterminer les liens qui pourraient exister entre l'enseignante et le tireur et s'il s'agissait d'un conflit domestique.
Au Venezuela, l'opposition est à nouveau descendue dans la rue lundi pour protester contre la crise économique et les atteintes à la démocratie dont elle accuse le gouvernement du président socialiste Nicolas Maduro. Des défilés ont eu lieu dans plusieurs villes. Il s'agit de la quatrième vague de protestation en 10 jours. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho. Claire Morin-Gibault.
Le Niger a obtenu la présidence de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine jusqu'en 2021. Réunis en session extraordinaire hier à Abidjan, les chefs d'État et de gouvernement de l'UOMOA ont également retenu que le Sénégal reprendra de manière définitive la présidence de la Commission de l'UOMOA en 2021. En Guinée, EcoBank vient de lancer son application mobile qui permet d'accéder à certains services bancaires de façon pratique et instantanée. Dans une interview à Financial Afrique, Chanou Moukaramou, le directeur général d'EcoBank Guinée, s'est dit fier de faciliter la vie des Guinéens. Corruption au Nigeria, un rapport publié hier par Global Witness et le réseau de journalistes d'investigation Finance Uncovered affirme que les deux compagnies Shell et Eni ont versé de l'argent pour acquérir un bloc de pétrole offshore nigérian. Selon ce rapport, les deux sociétés savaient que l'argent versé n'irait pas au gouvernement nigérian, mais à des individus, et qu'elles ont participé à une vaste opération de corruption en toute connaissance de cause.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Retour de la Ligue des Champions en Europe dès ce soir.
La Juventus de Turin, encore marquée par le souvenir douloureux de la finale de 2015 perdue contre le FC Barcelone, a l'occasion de se reprendre ce mardi en quart de finale. Allez, un parfum de revanche donc entre Italiens et Espagnols. Autre affiche ce soir, Monaco qui voudra poursuivre sa belle épopée européenne face au mur jaune de Dortmund et son canonnier, j'ai nommé le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.
Et demain, un gros choc.
Le Bayern Munich contre le Real Madrid qui s'affronte également pour ce quart de finale. Allez, tenez-vous bien, c'est la 23e rencontre, toute compétition européenne confondue, entre les deux clubs. C'est l'affiche la plus récurrente de l'histoire du football continental. Autre match à suivre, l'Atlético Madrid contre Leicester. Allez, Grissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Indiana et Philadelphia, 120-111. Brooklyn Nets et Boston, 105-114. Cleveland et Miami, 121-124. Orlando et Chicago 75-122, Charlotte et Milwaukee 79-89, Washington et Detroit 105-101, San Antonio et Portland 98-99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, détresse des producteurs de cacao dont les cours sont en ce moment à leur niveau le plus bas depuis plus de 3 ans. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, est allé à la rencontre des paysans qui font face à une situation très difficile.
Tous les magasins d'Abidjan sont remplis de cacao. La perte est énorme. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 tonnes qui est entre les mains des paysans. On ne sait pas quoi faire avec.
Du cacao, les paysans ivoiriens en ont en grande quantité sous la main. Et pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour dans des zones productrices ou simplement au port d'Abidjan ou de San Pedro. Plus de 30% de baisse des cours sur le marché international depuis octobre dernier. Les conséquences sont ici visibles. Kwame Kwame Jean, producteur à Divo, à 190 km d'Abidjan.
Le cacao, on ne sait pas comment on va vendre. Ils sont venus, ils ont décidé de donner ça à 700. On m'a dit quoi? On a accepté pour ne pas que ça reste encore à la base. Actuellement, le cacao est encore sous la main des planteurs.
De 1100 francs CFA le kilogramme, le prix d'achat du cacao aux planteurs est passé à 700 francs le 30 mars dernier. Une chute qui amène de nombreux producteurs à se tourner vers le Ghana voisin. Kone Moussa, président du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, le SINAPSI.
Aujourd'hui, à la frontière du Ghana, les Indiens quittent au Ghana, ils viennent acheter le cacao en Côte d'Ivoire. Ils prennent le kilogramme 950 francs le kilo. Pendant que le prix est fixé ici à 700 francs, pourquoi il n'y a pas de blocage au Ghana? Pourquoi il n'y a pas de blocage au Cameroun?
Preuve du malaise qui secoue la filière, des producteurs ont manifesté le 17 février dernier à Abidjan avant d'être dispersés par la police. En outre, le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, le SINAPSI, a décidé d'intenter une action en justice à l'encontre du Conseil du Café Cacao, le CCC, l'organe de régulation de la filière. Le CCC est notamment chargé de la gestion d'un fonds de réserve créé en 2012 par l'État pour indemniser les paysans en cas de chute des prix du café et du cacao.
Le cacao est prix fixé 1100 francs garantis. C'est le même cacao qui est revendu sur le marché mondial avec Conseil Café Cacao 1805 francs. Et donc cet argent qu'ils prennent après avoir enlevé droit unique de sortie de l'État et le revenu que les gens gardent en cas de chute du prix, et ces fonds-là, on nous a toujours dit que ça est là, mais on n'a jamais vu. C'est pour ça qu'on porte plainte.
Boti Bizoua est le président du conseil d'administration de l'ANAPROCI, l'Association nationale des producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire. Il dénonce lui aussi la mauvaise organisation de la filière.
C'est une organisation qui échappe aux producteurs eux-mêmes, qui infantilise les producteurs.
Nos tentatives pour avoir des responsables du conseil café-cacao sont restées infructueuses. Le cacao, c'est 50% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
En République centrafricaine, les groupes armés ont occupé, pillé et endommagé des écoles, empêchant des milliers d'enfants d'être scolarisés. C'est ce qui ressort d'un rapport de Human Rights Watch. Le point avec Nathalie Barge.
Des milliers d'enfants en Centrafrique sont privés d'enseignement à cause des groupes armés qui utilisent leurs écoles comme base ou caserne. Pour Aboubakri Tall, représentant de l'UNICEF en Centrafrique, les écoliers sont doublement pénalisés.
That means basically a whole country that runs at a suboptimal level.
Cela signifie qu'un pays entier fonctionne au rabais. Lorsque les enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils se retrouvent dans les rues et deviennent vulnérables à toutes sortes de choses, y compris être recrutés et utilisés par les groupes armés. Cela signifie que nous créons justement le genre de citoyens que nous ne voudrions pas rencontrer dans un coin sombre d'une rue quelque part.
Les forces gouvernementales ont peu de contrôle à l'extérieur de la capitale. À la campagne, les milices armées armées rivalisent pour les ressources minérales et les routes commerciales. Les bandits de grand chemin et autres groupes armés comme la LRA profitent aussi de la mauvaise situation sécuritaire. Lewis Mudge de Human Rights Watch a enquêté sur l'accès aux écoles en Centrafrique entre novembre et janvier dernier. Il a constaté que même quand les combattants se trouvaient juste à l'extérieur de l'école, les élèves ne pouvaient pas y entrer, certains enfants devant passer par des milices qui ont tué des membres de leur famille.
Nous
avons rencontré un certain nombre d'enfants qui ont exprimé avoir perdu l'estime de soi, avoir l'impression d'être sans avenir et n'avoir plus aucun espoir alors qu'ils avaient de grands rêves auparavant.
L'école primaire Saint-François à Bangui a été occupée par des milices anti-Balaka de 2013 à 2015. Ils avaient tout cassé et donné des armes aux élèves, se souvient le directeur Édouard Perret.
Ils détruisent tout ce qui est matériel, donc ils ont cassé les tables bancs. Quand lorsqu'on passait dans les classes, il y avait beaucoup de salles de classe qui n'ont pas de table banc. Les enfants s'assaient à même le sol. Ils ont cassé les bureaux, ils ont cassé notre bibliothèque d'ailleurs. Ils ont emporté tous les livres. Ils ont mis l'école dans un état de délabrement vraiment regrettable.
Mais c'est une autre histoire en dehors de la capitale où le gouvernement négocie avec des groupes armés pour faire sortir les rebelles des écoles, explique Eugénie Lucienne Bondo, haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation.
Nous souhaitons vivement que la paix revienne. Parce que l'avenir d'un pays, c'est l'école, ce sont les enfants.
Human Rights Watch assure toutefois que le nombre d'écoles occupées a diminué, en partie grâce à une initiative lancée l'année dernière par la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République Centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Tchad, prévu pour hier matin, la journée Iyina, en arabe local qui signifie « nous sommes fatigués », a été réprimée par la police. Elle avait été initiée par le mouvement citoyen Iyina pour dénoncer la mauvaise gouvernance, l'insécurité. Elle consistait à porter des habits rouges ou des bandeaux rouges. Le porte-parole du mouvement Iyina est détenu depuis le 6 avril dernier dans les locaux de l'ANS, l'Agence nationale de sécurité. Le point avec notre correspondant N'Djamena, André Kotmadjingar.
Habillés tous en rouge pour protester contre la marginalisation de la jeunesse, la prise en otage des citoyens par l'Agence nationale de sécurité, ces jeunes ont tenté de se regrouper à la Bourse du Travail. C'est de là qu'ils ont été surpris par les éléments de la police et de la gendarmerie nationale. 12 manifestants sont arrêtés et gardés au commissariat central de la ville de N'Djamena en attendant la décision des hautes autorités. Dobien Asingar, délégué permanent de la FITH auprès de la CEMAC, dénonce le comportement des agents de sécurité.
J'ai un sentiment de honte pour mon pays. Est-ce que vous pouvez concevoir que pour une simple manifestation où les gens sont simplement habillés en rouge, où les personnes qui ont porté ces habits-là sont mis dans un enclos de la Bourse du Travail. En quoi ça menace la République? De toutes les manières, nous sommes en train vraiment de saisir maintenant l'extérieur parce que trop c'est trop.
Tobien Asingar interpelle par ailleurs le président de la République par rapport aux agissements des agents de l'ANS. Car, dit-il, Idriss Déby Itno a prêté serment pour assurer la sécurité de tous les Tchadiens.
On a comme l'impression que le président de la République laisse faire. Disons les choses clairement, c'est comme s'il lui-même a donné ce permis d'arrêter, de séquestrer, de faire disparaître les gens et de violer les droits des citoyens. C'est dommage, mais il est encore le président de la République des Tchadiens. Il a le devoir de les protéger parce qu'il ne doit pas oublier qu'il a prêté serment.
Si la journée de protestation de ce lundi a été étouffée par les forces de l'ordre, ce n'est pas pour autant dire que les organisations de jeunes vont désarmer. Déjà, le coordonnateur du collectif Ça doit changer, Bandoué Déclador, annonce sa couleur.
Le Tchad est un pays où il y a un délestage de l'état de droit. Nous, au niveau de Ça doit changer, nous aussi, nous lançons déjà un appel au deuil national qui est prévisiblement pour le 15 avril. Donc, dès lors que nos collègues du mouvement INA ne sont pas libérés, dès lors que l'État ne prend pas une initiative pour se prononcer sur la question de l'emploi, nous n'allons pas reculer. Donc, s'ils veulent l'arrêter, mais ils n'ont pas construit d'autres prisons. Donc nous appelons la population à se mobiliser pour le deuil national. Il faut que la population porte le noir le 15 avril pour exprimer le deuil de la jeunesse contre l'arrestation, l'intimidation et séquestration de la jeunesse.
André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Brazzavillois et Quinois attendent toujours d'être reliés par un pont, ce qui serait la réalisation d'un vieux projet ou d'un vieux rêve. On rappelle qu'en 1971, les présidents Mobutu Sese Seko du Zaïre et Marien Ngouabi du Congo avaient organisé une rencontre au beau milieu du fleuve Congo sur un bateau pour évoquer cette question. Mais plus de 45 ans après, la traversée se fait toujours par bateau ou par pirogue de fortune. De Brazzaville, notre correspondant Nguela Ngosu.
C'est un vieux projet. En 1971, on avait fermement cru en sa réalisation lorsque les présidents Mobutu Sese Seko de la République du Zaïre et Marien Ngouabi de la République populaire du Congo avaient eu une spectaculaire rencontre en plein fleuve Congo à ce sujet. Mais 45 ans après, la traversée sous le fleuve se fait toujours par bateau. Les populations des deux capitales les plus rapprochées au monde n'ont jamais cessé de rêver de ce pont route rail.
Évidemment, vu qu'il y a échange économique de part et d'autre. Et si le temps est raccourci, les difficultés de circulation sont également améliorées avec le pont, mais ce sera une bonne chose. Et cette fois-ci, ça sera des camions. Rapidement, en 3, 4, 5 minutes, c'est fait.
Il y a trop de tracasseries en matière de formalité. Il est arrivé plusieurs fois que des bateaux se soient renversés et que les gilets de sauvetage ne sont pas appropriés et tout le monde ne sait pas nager. Je pense que la route aura l'avantage de pallier à cet aspect de retard, mais en plus, s'il y a les rails, ça veut dire qu'il y aura aussi l'écoulement des marchandises plus facilement.
Il faut s'ouvrir. Nous sommes à l'Union africaine, nous sommes à la CEMAC, nous sommes à la CAC et l'un des volets retenus dans les l'intégration, c'est d'ouvrir les voies pour relier tous ces pays. Je suis heureux qu'aujourd'hui, nous ayons possibilité d'être reliés au Gabon. Ça n'a pas entraîné un afflux.
Dans certains milieux puristes et conservateurs à Brazzaville, on pense que ce pont route rail sera l'occasion de se faire envahir par les Quinois qui sont déjà très nombreux sur la rive droite du fleuve. Mais Kesh Atipo, le premier secrétaire de la mairie de Brazzaville, croit plutôt au profit que tireront les deux villes de cet ouvrage.
Pendant un moment, on se dit, bon, ils sont plus nombreux puisque nous à 1 500 000 et eux à plus de 7 millions. Mais l'afflux, ça ne fait pas mal, tant que ça peut arranger les deux peuples. Je pense que c'est une bonne affaire.
Alphonse Ndongo, un économiste, explique d'ailleurs que Brazzaville s'en tirera bien face à un marché très dollarisé à Kinshasa.
Le Congo est le point de passage pour les autres pays de la zone CEMAC pour la RDC. Donc, ils sont à la recherche des devises en francs CFA, mais nous aussi, il faut le reconnaître que l'économie de Kinshasa est une économie dollarisée. Donc, c'est quelque chose qui éventuellement aussi peut nous faire entrer des devises parce que ces échanges ne vont pas s'effectuer en francs congolais ou en francs burundais, n'est-ce pas? Si nos économistes et ceux qui ont en charge la faisabilité de ce projet examinent les choses de front en comble, c'est pour nous une meilleure ressource.
Il faut de la patience, car la volonté politique de Brazzaville et de Kinshasa compte dans la réalisation de ce projet route rail. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement, qui se réunit en mai prochain, examinera le budget des 51 milliards prévus pour le début des travaux de l'ouvrage. Au bord du fleuve Congo, Nguela Ngusu, VOA Afrique.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.